Radio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Euradio dans cette nouvelle émission Enquête d'Europe animée par les étudiants du Master 2 Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Je me présente, je suis Clément Front et je suis accompagné aujourd'hui de Marine Hanouna et de Victoria Fonseca, également étudiante en Master 2 Sciences Politiques à Nantes Université. Au programme aujourd'hui, l'enjeu et le débat autour de la question des zones à faible émission en Europe. Pour introduire ce sujet de politique publique, je vous propose d'écouter un extrait d'un micro-trottoir réalisé par nos soins avec au micro Victoria, interrogeant la population sur cette question passionnante.
Savez-vous ce qu'est une zone à faible émission ? Qu'est-ce que cela vous évoque ?
Alors ouais, je sais ce que c'est une zone à faible émission. C'est une zone où les voitures sont restreintes par rapport à leur pollution. Donc c'est surtout en ville, telles que Lyon, Saint-Etienne ou Grenoble. Et qu'est-ce que ça m'évoque ? Bah moi ça m'énerve un peu pour le coup, j'ai une voiture qui pollue un petit peu, qui est critère 4 pour être plus précise. Donc je comprends que c'est pour l'écologie, hein. C'est très bien, c'est important. Et il faut faire en sorte que les centres-villes soient moins pollués. Mais il faudrait des alternatives. Plus de parking sur les extérieurs pour poser sa voiture et continuer en transport en commun ou des choses comme ça.
Une zone réservée à des véhicules qui émettent peu de gaz à effet de serre au sein des villes. Et c'est donc une politique publique aussi.
Pensez-vous que les zones à faible émission sont une mesure efficace pour réduire la pollution de l'air en ville ? Pourquoi pensez-vous cela ?
Ça me paraît être une bonne initiative, mais en même temps, ça pose des problèmes de sociaux, puisque les plus pauvres, à mon avis, peuvent plus difficilement se procurer des voitures émettant moins.
Alors oui, je pense que c'est une mesure efficace parce que du coup ça permet aux gens de réduire, du coup comme moi je vais plus pouvoir rouler avec ma voiture donc je vais devoir trouver d'autres moyens et je pense que je vais pas du coup être la seule. Et je pense que ouais c'est efficace parce que les gens du coup vont plus se rendre compte de ce que ça pollue et vont pouvoir trouver des alternatives comme je viens de le dire.
Alors oui, en théorie je pense que les zones à faible émission seraient efficaces si on avait les moyens concrets et réels et équitables de les mettre en œuvre. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de mon papa, qui a une vieille voiture qu'il adore, hein, il ne veut pas s'en séparer, il n'a peut-être plus ni le temps ni les moyens de s'acheter une grosse voiture électrique très performante. Et si on lui interdit l'accès de la ville, alors il faut qu'il y ait un métro qui fonctionne, des transports publics parfaits, une garantie d'accès. Si vous voulez, en plus, il est âgé, il ne peut plus trop marcher. Donc comment on fait ? Et il habite en région parisienne et je peux vous dire, les transports, c'est un enfer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, le principe est bon, mais comme toujours, comment on met en œuvre ce bon principe ? Et comment on s'assure que des substituts vraiment fonctionnels à des vieilles guimbardes qui polluent nos centres-villes et qui donnent de l'asthme à nos enfants et à nous-mêmes soient réellement possibles, vous voyez ? Bien sûr que c'est bien sur le principe. Et bien sûr que, en réalité, mettre en œuvre les ZFE, comme on les appelle, c'est compliqué.
Honnêtement, je ne suis pas certaine que ce soit une mesure qui ait autant d'impact positif que ça sur la pollution en ville, parce que dans tous les cas, il y aura forcément des voitures et on oblige un peu les consommateurs au final à acheter des voitures plus récentes pour avoir des critères mieux notés, mais au final, elle pollue toujours les voitures, donc si on a des nouvelles voitures et qu'on peut à nouveau rentrer dans les villes, il y a toujours autant de pollution. Et je pense que pour réduire la pollution, il faut aussi voir d'autres solutions que simplement interdire l'entrée des villes à certaines catégories de voitures.
47 000 morts par an, c'est le nombre de décès produits par la pollution de l'air en France. Alors, on considère que l'air est pollué lorsqu'elle contient tout un ensemble de polluants, comme notamment le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote ou encore l'ozone ou des particules fines. Alors, depuis 2004, l'Union européenne a adopté tout un ensemble de directives qui incombent aux États membres de prendre des mesures pour réduire la pollution de l'air. En France, on a tout d'abord la loi de 2019, considérée comme le point de départ de la mise en place des ZFE. Elle repose sur trois piliers. Le premier est celui d'investir mieux et plus dans les transports du quotidien. Le second est de faciliter et d'encourager le déploiement des nouvelles mobilités. Et le troisième est d'atteindre les objectifs bas carbone d'ici 2025. Alors suite à cette loi, toute la procédure s'est accélérée puisqu'en 2021, avec la loi de climat et résilience, cette politique publique a été élargie à un ensemble de degrés de restrictivité. Alors, la mise en place soudaine de ces zones à faible émission nous interroge sur trois points. Tout d'abord, sur la question de l'efficacité de la mesure, et on l'a entendu avec le micro-trottoir à l'instant. On a aussi la question de l'acceptabilité et le degré d'acceptabilité de cette mesure par la société. Mais le troisième, c'est celui qu'on va développer aujourd'hui avec nos deux intervenants, et permettez-moi de vous formuler cette question. Ne serait-elle pas plutôt considérée comme une zone à forte exclusion, comme le montrent différentes interventions du micro-trottoir? Pour approfondir ce sujet, nous avons ici deux intervenants. Étienne Chauffour, directeur en charge des mobilités à France Urbaine, l'Association nationale des grandes villes et métropoles. Étienne Chauffour, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Nous avons aussi Théodore Talland, qui est doctorant à Sciences Po et chercheur affilié à un centre en Angleterre et particulièrement concerné par la question des gouvernances et des transitions environnementales. Bonjour Théodore Talland.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors tous les deux, grâce à votre expertise, nous allons pouvoir nous aiguiller et éclairer un peu les enjeux et les défis liés à la mise en place de ces zones à faible émission. Et je laisse Clément vous poser la première question.
Étienne Chauffour, bonjour. Donc vous êtes, si on peut le dire, principalement concerné par la mise en place de ces ZFE à l'échelon national. Concrètement et selon vous, qu'est-ce qu'une ZFE et quel impact ça causera en Europe lorsque ces zones seront toutes mises en place ?
C'est difficile de savoir pour toute l'Europe, mais il faut quand même rappeler que les ZFE ou les Low Emission Zones, tels que ça se nomme dans d'autres pays, sont déjà très fortement mises en œuvre en Allemagne, en Italie, dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne, beaucoup plus qu'en France. Et depuis longtemps, et je reviens sur l'idée de zone à forte exclusion. Aujourd'hui, la principale exclusion va concerner les quartiers populaires. En termes de santé publique, là où nous avons les plus gros taux de mortalité liée à des maladies pulmonaires précoces ou par exemple de bronchiolite pour les enfants, c'est dans les quartiers populaires qui sont le plus souvent à côté des grands axes de circulation. Donc on peut dire que c'est une mesure écologique ou environnementale, c'est surtout une mesure de santé publique. Après, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas rajouter, parce que les mobilités sont déjà facteurs d'exclusion, à la fois sociale et territoriale, et on ne peut pas rajouter par les ZFE une tension supplémentaire, donc il faut qu'on arrive à éviter ce problème d'exclusion.
Merci Étienne Chauffour. Alors Théodore Talland, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes donc chercheur et doctorant en sciences politiques et fortement concerné par la question de l'acceptabilité territoriale. Pourquoi, selon vous, cette zone à faible émission peut être considérée comme une zone à forte exclusion par les citoyens et les politiques au niveau européen? Mais aussi, est-ce que c'est une mesure politique qui amène à un processus obligatoire de gentrification? Et en fait, quels sont les risques finalement pour les habitants qui résident justement dans ces zones à faible émission?
Alors déjà, c'est certain que c'est une zone à faible exclusion à la fois sociale et spatiale. C'est pas quelque chose qui en tant que tel est un problème, parce que comme le disait l'autre intervenant, c'est quelque chose qui a été adopté dans de nombreuses villes européennes. Donc en tant que tel, imposer une régulation qui interdirait certaines personnes de circuler en voiture en centre-ville, bien évidemment, implique des modifications de comportement, mais si des alternatives étaient disponibles, je pense que la discussion se poserait en des termes différents. La difficulté avec l'exclusion créée par les zones à faible émission, c'est qu'elle s'impose dans un contexte où les alternatives n'existent pas. Moi, dans le cadre de mes travaux de recherche, j'interroge de nombreuses personnes, des citoyens qui vivent dans des zones périurbaines ou rurales, et qui ont toutes et tous la sensation que la zone à faible émission va simplement les contraindre à une assignation à domicile, donc ils vont devoir rester dans leur village, dans leur quartier pavillonnaire, avec l'impossibilité de s'orienter vers le centre-ville. Donc en ce sens, bien évidemment, la zone à faible émission porte en elle le risque d'exclure spatialement certains citoyens. C'est important de le dire, c'est surtout parce qu'il n'y a pas d'alternative. La discussion avec les enquêtés que je rencontre se structure notamment sur cette question d'alternative. Je regardais un rapport récemment d'un institut qui travaille sur la question du vélo, qui démontrait que dans la France rurale, qui n'est pas la seule impliquée par la zone à faible émission, mais qui est en partie impliquée, il y a seulement 28% de la population qui a accès à une station, une gare locale à moins de 20 minutes à vélo. Ça veut dire que vous avez 70% des citoyens ruraux qui n'ont pas une gare à moins de 20 minutes de vélo. Et pour la distance au lycée, c'est 40%. Donc vous voyez qu'avec ces chiffres, la difficulté qu'on a en France, avec un pays particulièrement peu dense, avec des fortes zones rurales et des zones périurbaines extrêmement étendues, c'est qu'en absence d'alternatives, on risque d'exclure une partie de la population. Mais je pense que ce qui a très bien été dit, c'est qu'il va falloir aussi poser la question de quelle population est exclue. C'est pas toujours les populations les plus populaires, parce que les classes populaires sont pas forcément celles qui utilisent le plus leur voiture. D'ailleurs, c'est plutôt les classes moyennes, moyennes inférieures, mais autour des classes moyennes. Les classes populaires sont plus à même de prendre les transports en commun ou se déplacer au niveau local. Et c'est aussi les classes populaires qui sont les plus à même de souffrir de la pollution de l'air, comme l'était évoqué juste avant. Donc, je pense qu'il faut poser la question des zones à faible émission, pas forcément en des termes nécessairement normatifs, en donnant l'impression que les classes populaires seraient exclues de centre-ville, gentrifiés et bourgeois, mais de poser vraiment la question de la structure spatiale de nos territoires métropolitains et de s'interroger en conséquence sur les alternatives qui peuvent exister, qui pourraient peut-être permettre de favoriser l'acceptabilité de cette mesure.
Donc en fait, vraiment, c'est cette exclusion qui ressort de la part du sentiment des citoyens, en fait, au niveau national en France et au niveau européen aussi. C'est ça qui ressort vraiment de ces échanges
oui,
et ces études-là.
Je pense que ce qui est compliqué avec le sentiment d'exclusion, c'est qu'il y a à la fois objectif et subjectif. Il y a matériellement, ouais. C'est vrai qu'en imposant une régulation sur le déplacement des voitures individuelles, on va spatialement exclure certaines parties de la population. Il existe toujours des alternatives. Dans la grande majorité des métropoles, il y a quand même un système de TER qui existe ou de transport en commun qui n'est pas suffisant. Et donc, il est vrai que matériellement, on risque d'exclure une partie de la population des centres-villes ou à minima de complexifier, on va dire, leur accès au centre-ville, ce qui peut être un problème, notamment pour certaines populations qui ont besoin de se déplacer très tôt ou très tard pour le travail, ou des personnes âgées, par exemple, qui ont besoin de prendre des rendez-vous chez le médecin. Ça peut paraître dérisoire, mais c'est quelque chose qui revenait très fréquemment dans mes entretiens. C'est la façon de se dire... Ah oui, mais moi, ma mère, elle a 80 ans, comment elle va dans le centre-ville? Ou moi, j'ai un métier qui implique à aller au travail à 5 heures, j'ai pas de TER. Donc forcément, matériellement, on va complexifier la vie de certains citoyens, mais il y a aussi un sentiment subjectif d'exclusion. Et je pense que c'est quelque chose qui a peut-être été sous-estimé par les pouvoirs publics en France, mais c'est le message qui est perçu par des citoyens de zones qu'on qualifie parfois, probablement pas à juste titre, mais qu'on qualifie parfois de zones périphériques, en donnant l'impression que les centres urbains excluraient de ces centres une population qui serait pas désirée. Et je pense que là, il y a un gros travail sur le discours qui n'a pas forcément été fait, mais qui a été fait dans d'autres villes européennes. Et à mon avis, si on veut remettre sur les bons rails les ZFE en France, il va falloir restructurer le discours pour éviter d'avoir justement cette sensation d'exclusion qui se développe.
Alors l'enjeu d'une politique comme la mise en place des ZFE en Europe, c'est de prendre au sérieux l'écologie populaire. Car il y a clairement une dépossession écologique aujourd'hui. Des classes populaires et rurales. Pour quelles raisons, Théodore Talon ?
Alors, l'écologie est plurielle, mais l'écologie telle qu'elle s'est développée dans la sphère politique, on va dire, depuis quelques décennies, qu'on pourrait qualifier d'écologie mainstream, c'est plutôt une écologie qui a été perçue comme étant urbaine, diplômée, conscientisée. C'est vrai que quand on regarde les mouvements climat, par exemple, les partis verts, on a une surreprésentation des classes supérieures et urbaines. Et surtout qui font de l'engagement écologique un engagement conscientisé. C'est quelque chose qui est tout à fait pertinent dans le contexte actuel, mais qui du coup a pu donner l'impression parfois de ne pas porter attention aux autres voies de l'écologie. Et justement, je pense qu'il y a de nombreux travaux en ce moment sur l'écologie qui serait une écologie populaire, avec un terme qu'il faut discuter. Hein, parce qu'à l'époque, j'avais écrit un article il y a 2 ans sur cette question-là, et depuis, l'écologie populaire a été un peu ressaisie par un nombre très différent et hétéroclite d'acteurs pour un peu y mettre ce qu'on a envie de mettre. Mais l'idée de l'écologie populaire, c'est quand même de se dire... que la transition écologique ne va pas simplement être guidée par les centres-villes et les classes supérieures diplômées et urbaines, mais qu'il faut laisser sa place à d'autres façons de voir la question écologique. En disant ça, on ne dit pas grand-chose non plus, parce que l'écologie populaire est parfois utilisée par certains mouvements, on va dire plutôt populistes ou plutôt conservateurs, qui essayent de teaser l'argument de l'écologie populaire pour déresponsabiliser les classes populaires et les classes moyennes, en disant qu'en réalité... l'écologie bobo des centres-villes s'impose à eux, alors qu'eux n'ont rien fait. Bon, il faut faire attention à ce manichéisme d'utiliser la question des souffrances des classes populaires, des classes moyennes, vis-à-vis de certaines politiques écologiques, pour un peu caresser dans le sens du poil les citoyens et responsabiliser une espèce de classe politique dominante dont on ne saurait pas très bien qui l'incarne. Mais il est vrai que les ZFE interrogent fondamentalement la fabrique des politiques écologiques en France depuis 20 ans. C'est une fabrique des politiques écologiques qui passe plutôt par le haut, qui donne l'impression d'être moralisatrice ou d'être distante du terrain. C'est une impression, je ne suis pas là pour objectifier ce sentiment, mais c'est vrai qu'il y a un fort sentiment au sein de la population que j'interroge que la transition écologique serait prise sans les consulter, sans comprendre leur mode de vie, sans écouter les difficultés qu'ils peuvent vivre. Et encore une fois, moi, en tant que chercheur, je ne suis pas là pour défendre ou attaquer tel ou tel segment de la population. Ce qui est intéressant, c'est de partager avec vous ce que les citoyens peuvent parfois me dire lors de longs entretiens. Et ce qu'ils me disent, c'est quand même avoir la sensation que dans le cas des ZFE, on n'a pas pensé à eux. On ne s'est pas dit, eux, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir aller dans le centre-ville de Strasbourg, dans le centre-ville de Paris, de Marseille, etc. Et je pense que la conclusion, ça n'a pas forcément été de ne pas faire les ZFE, mais c'est peut-être s'interroger collectivement sur qu'est-ce qu'on a mal fait à la fin de la dernière décennie, au début de cette décennie, lorsqu'on a commencé à évoquer justement ces zones à faible émission.
Tout à fait. Alors,
Je peux réagir. Oui, moi je partage à plein ce qu'a dit M. Talon. Aujourd'hui, le risque des mesures écologiques est celui qu'elles soient punitives. Et dans ce cas-là, il y aura deux travers. Le premier, c'est qu'elles vont isoler ou globalement être un facteur d'exclusion locale et territoriale. Et le deuxième travers, c'est surtout qu'elles vont être peu efficaces parce que elles ne seront pas considérées comme légitimes et acceptables. Après, sur les ZFE, pour revenir à ce sujet, aujourd'hui, les problèmes qui sont posés sont des problèmes réels. Moins on a d'alternatives en transport en commun, plus on est dans une situation où la ZFE est inacceptable. Je vais vous prendre une illustration. Quelqu'un à qui on dit, bah écoutez, vous êtes obligé d'aller maintenant en centre-ville pour vous soigner, pour travailler, pour les études ou la culture. Si en plus on lui dit, déjà vous faites ces kilomètres que vous n'avez pas envie de faire, mais en plus votre voiture est polluante et vous n'avez pas le droit d'aller en centre-ville, c'est une catastrophe. Donc il y a plusieurs mesures qui sont obligatoirement corrélées aux ZFE. La première, c'est, en réponse d'ailleurs aux radio-trottoirs, une personne âgée qui a une vieille voiture, qui ne veut pas la changer, mais qui circule rarement. Bien, ça ne sert à rien de lui dire « vous allez changer votre voiture ». Il faut donner des dérogations aux petits rouleurs, la capacité de rouler avec sa vieille voiture, parce que, effectivement, sa voiture est peut-être un peu plus polluante, mais il roule tellement peu que, en gros, il n'apportera pas grand-chose en termes d'émissions. Donc, des dérogations aux petits rouleurs, des alternatives à l'autosolisme, des aides aux habitants, et pas seulement aux habitants des territoires métropolitains où se crée la ZFE, mais surtout des territoires voisins, parce qu'il n'y a pas de plan B. Donc ça, je crois que c'est vraiment indispensable. Après, je rejoins également ce qui a été dit, c'est le paradoxe des zones à faible émission, c'est que les émissions nuisent encore plus aux quartiers populaires pour une raison assez facile à expliquer, hein. Lorsque vous mettez un quartier d'habitat social au bord du périphérique, des autoroutes, des rocades, etc., c'est beaucoup plus fréquent que des quartiers résidentiels qui sont plutôt dans les centres-villes. Donc, ce sont les quartiers populaires qui sont le plus victimes des émissions et en même temps, ce sont eux qui ont le plus de difficultés à changer de mode. Donc, il faut qu'on agisse dans ce domaine-là. Après, un élément quand même un tout petit peu rassurant, en 4 ans, il y avait 12 territoires qui étaient en dépassement des normes d'émissions européennes. Aujourd'hui, il n'en reste que 2, la métropole de Paris et la métropole de Lyon. Tous les autres ont, par à la fois l'effort qui a été engagé, qui peut être un effort d'annonce de ZFE, il y a pour l'instant très peu de sanctions, mais également par l'évolution naturelle du renouvellement des flottes automobiles, qui sans être électriques, peuvent être simplement des 0,5 ou des 0,6, hein, qui sont plus des diesels de 18 ans d'âge, fait que les émissions ont déjà très fortement baissé dans ces territoires. Donc malgré tout, on voit bien qu'on va dans le bon sens sans obligatoirement être dans une logique brutale. Et je crois qu'il faut trouver ce bon équilibre d'accompagnement, malgré tout, de pas toujours reculer devant les choix écologiques, parce que autrement, c'est le choix de santé publique qui sera toujours remis en cause. On le voit bien dans le débat sur l'agriculture, c'est toujours un sujet qui va être le perdant au bout du compte. Donc il faut pas toujours reculer, mais en même temps, il faut être très à l'écoute des situations individuelles. J'aurais dû évoquer tous les acteurs économiques, et notamment les petits acteurs économiques, les artisans, les petits commerçants qui ont absolument besoin d'un véhicule et qui n'est pas nécessairement un véhicule récent. Donc il faut qu'on accompagne toutes ces situations-là, et c'est le cas. C'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Paris, etc. Mais ça demande effectivement un travail qui est un travail très pointilliste, de réactivité, d'écoute.
Et justement, sur cette question-là d'acceptabilité, de tout ce qui est un peu, on va dire, difficile à faire admettre, est-ce que ce type de projet n'impliquerait pas peut-être une sorte de démocratie inversée, c'est-à-dire une démocratie participative, une démocratie locale, mettre en place, j'ai envie de dire, des structures qui permettraient aux résidents de donner leur avis, donner leur point de vue, et comment faire accepter ces mesures qui peuvent, a priori, être plus vues comme contraignantes que facilitateurs, finalement?
C'est complexe parce que si vous faites par exemple un référendum sur les trottinettes à Paris, c'est pas un exemple pris au hasard, que vous sollicitez les habitants de Paris et notamment des personnes âgées pour qui la trottinette n'est qu'un élément de danger et de nuisance. Le résultat du référendum est déjà connu. Donc, quel que soit le problème des trottinettes, vous allez avoir un vote contre. Si vous faites un référendum sur les ZFE sur un territoire très vaste, les gens n'y comprenant rien, il n'y aura pas de résultat probant. Donc il me semble que dans un certain nombre de domaines, et c'est pour ça que nos institutions donnent une responsabilité aux législateurs, il faut assumer le courage de mettre en œuvre un certain nombre de réglementations. Après, ça n'empêche pas ce que je vous disais, hein, le travail de proximité avec tous les usagers, avec tous les habitants, y compris les habitants les plus externes. Mais franchement, pour être un peu brutal, si aujourd'hui on faisait un référendum sur les ZFE et ses impacts, ce serait un très bon moyen d'enterrement de troisième classe, parce qu'on connaît déjà le résultat.
Et justement, pour les personnes qui nous écoutent, sûrement qui sont en voiture, qui sont en train de conduire et qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Est-ce qu'il faut changer de pensée? Est-ce que c'est à eux de s'adapter? Ou est-ce qu'au contraire, vous n'aurez pas envie de leur dire « Venez participer, venez débattre, venez donner votre point de vue justement aux autorités locales ?»
Déjà, je leur dirais que les efforts qui ont été faits ces dernières années ont tous été productifs. On a fortement réduit les émissions et le risque de maladies qui y sont liées. Dans pratiquement tous les territoires, y compris à Paris et à Lyon, hein, qui sont encore en dépassement, mais qui ont fortement réduit les émissions. Deuxième chose que je leur dirais, c'est que cette action, et notamment des personnes qui n'ont pas de plan B en matière de mobilité, demande vraiment des échanges, demande à ce que l'on en parle et qu'ils n'hésitent pas à venir exprimer ses attentes. Et peut-être le troisième sujet, c'est pas du tout ou rien. Et aujourd'hui, on a tendance à schématiser en disant « mais la seule solution, ce sera d'acheter un véhicule électrique très cher ». Non, la solution, ça peut être de rétrofiter, c'est-à-dire de changer simplement le mode de motorisation d'un véhicule ancien. Ça peut être d'acheter du véhicule d'occasion qui peut être critère 2 et pas nécessairement critère 0, et effectivement de trouver des modes qui sont pas des modes aussi exigeants que d'acheter un véhicule électrique à je sais pas combien d'euros. Après, un élément sur lequel j'insiste beaucoup, qu'on connaît assez peu, l'émission des véhicules, elle a deux origines. Première origine, c'est en gros sa carburation, c'est-à-dire son pot d'échappement, pour faire simple, ce qui sort du pot d'échappement. C'est à peu près la moitié des émissions. L'autre moitié, c'est simplement le fait de rouler sur une route et de freiner. C'est-à-dire ces phénomènes d'abrasion, etc., qui créent des émissions. Et dans ce domaine-là, on est encore un peu au milieu du guet, parce que les véhicules sont de plus en plus lourds, et pas seulement hein, parce qu'ils sont électriques, hein, y compris parce qu'on a de plus en plus de 4x4, de SUV, et que plus le véhicule est lourd, plus il crée de l'abrasion, donc de l'émission.
Je vais poser une dernière question à Monsieur Talent. Est-ce que aujourd'hui on doit passer par une sorte de planification et d'anticipation? Le but, c'est vraiment d'éviter de tomber, comme vous le dites, Monsieur Talent, entre le marteau de la sobriété subie et l'enclume de la transition éprouvée. Il doit y avoir aujourd'hui un effort de fait de la part des gouvernements européens et du gouvernement français pour rebâtir la confiance avec des classes populaires qui vivent dans un sentiment de forte exclusion écologique. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
En fait, ce qui est intéressant avec le cas des ZFE, c'est qu'à mon avis, elles ont démontré toutes les difficultés auxquelles les gouvernements se confrontent avec la transition écologique. Elles sont à la fois ce qui peut enterrer la transition écologique et à la fois ce qui peut les, j'ai presque envie de dire, la révéler. Je vais prendre deux exemples pour particulièrement illustrer le premier point. Il y a une étude qui a été menée à Milan par des chercheurs italiens qui ont démontré que ils avaient imposé une ZFE en 2018-2019. Et ces chercheurs ont démontré que quand la ZFE, enfin une sorte de ZFE, c'était une taxe sur les véhicules polluants, quand elle est entrée en application dans les territoires où il n'y avait pas vraiment une planification, pas eu de politique de compensation, les citoyens de ces territoires se sont significativement tournés vers l'extrême droite aux élections suivantes. Mais ce qu'ils ont démontré, c'est que les quelques territoires de la grande métropole de Milan qui avaient pris en main la question en amont et qui avaient pensé les politiques de compensation, eh bien, dans ces territoires, les citoyens, ils se sont pas tournés vers l'extrême droite. Donc, ça montre, avec le cas de Milan, que si jamais on ne fait pas attention à la façon dont on planifie et anticipe les effets potentiellement coûteux de certaines politiques environnementales, on va se retrouver avec ce qu'on appelle maintenant un backlash écologique. Alors que si on planifie, j'ai presque envie de dire, il y a une lueur d'espoir qui existe pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Et le cas de Londres est également intéressant parce que Londres a fait partie des villes qui a très tôt essayé de mettre en place une zone à faible émission, qui a fonctionné. Ça a baissé de 20%, je crois, au moins certaines particules fines. Mais ça a mené le maire de Londres à être exposé à des menaces, à perdre une élection locale et à être bousculé par son propre parti. Parti qui, d'ailleurs, au niveau national, a complètement changé sa ligne écologique en se disant, en partie à cause des zones à faible émission, que le risque était trop grand de perdre des électeurs. Mais pourquoi ? Parce que certains partis ont peur qu'en anticipant mal, finalement, les effets de la transition écologique, les électeurs vont se retourner contre eux. Mais comme je disais, il y a quand même des exemples qui montrent que si on anticipe les effets de la transition écologique, on peut absorber certains chocs, accompagner les populations qui seront obligées de payer un coût potentiellement plus important. Et on peut réussir cette transition écologique qui serait à la fois efficace écologiquement et efficace socialement et entre guillemets électoralement. On va conclure là-dessus. Ce que je pense qui est important, c'est juste de se rappeler qu'une transition écologique sans contrainte, c'est impossible.
On va conclure là-dessus.
La question, c'est comment la contrainte va être absorbée par le système.
On va conclure là-dessus.
Je pense qu'il y a des exemples qui montrent que c'est possible et d'autres où c'est moins possible.
Merci Théodore. Ainsi se termine notre émission sur les zones à faible émission. Nous avons eu l'occasion d'explorer les opinions divergentes autour de cette mesure environnementale qui suscite à la fois espoir et préoccupation de nos villes. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers nos invités, Théodore Talent et Étienne Chauffour, pour avoir partagé leurs connaissances et leurs perspectives éclairées sur les sujets complexes. Cette discussion a mis en lumière les enjeux cruciaux liés à la mise en place de zones à feu, notamment en soulignant les préoccupations contre la pertinence des critères d'accès et l'impact social potentiel de telles mesures. Récemment, nous apprenons que les villes de Marseille, Rouen et Strasbourg ne sont plus tenues d'élargir les zones à feu aux véhicules critères 3. Cette décision politique, bien qu'y contestée, révèle les difficultés rencontrées par les municipalités dans la mise en œuvre de ces mesures. Finalement, nous avons remercié de nous avoir accompagnés pour cette mission. Restez informés et engagés pour un avenir urbain plus durable. Merci et au revoir.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.